Ceci est la rediffusion de l'émission Cappuccino.
Et voilà, maintenant ma partie est terminée. Je passe la parole à Fabrice.
Eh oui, merci Pietro. Bonjour à tous et à toutes. Ciao Renato, ciao, come stai?
Bene te.
Bene, bene. On va lancer la partie de 9h30 à 10h30 de Cappuccino. C'est parti.
Aligre FM présente Cappuccino.
C'est bon, merci Corentin. Corentin à la technique ce matin avec nous. Donc on va avoir un sommaire riche. Il faut prendre vos calepins pour noter toutes les petites infos. On commence par quoi ? On va commencer par un livre. Ensuite, on aura un concert à annoncer. On aura deux expos photos, de la voile, du sport, du sport italien de la voile, une BD et une interview. Il nous fait le plaisir d'être avec nous en studio. C'est Pierrick Bourgaud, auteur, journaliste, spécialiste des vins, des bars, des bistrots. On va causer aussi Osteria et tables italiennes. Bonjour Pierrick.
Bonjour Fabrice.
Comment ça va?
Très bien.
En ce matin, pas trop décalé avec la nouvelle heure?
Je suis arrivé 2 heures en avance, mais c'était sympa.
Donc du coup, vous avez squatté le marché d'Aligre, c'est
ça? Exactement, l'ouverture du marché d'Aligre, les premiers bistrots qui ouvrent, c'était très...
Ah c'est, on est dans le thème alors.
Ouais, un peu l'ambiance des halles de Paris avant leur démolition.
Je crois que c'est un des plus vieux marchés de Paris, non?
Oui,
c'est
je
ça,
crois,
le marché d'Aligre. Ouais. Bon, c'est sympa. On aura l'occasion de parler de ces moments de socialisation dont on a tant besoin et qui sont pas toujours, encore là ou qui disparaissent. Avec Pierrick. On va commencer par une petite info. Pierrick, vous l'avez entre les mains. C'est celui qui a posé durablement son empreinte sur la culture franco-italienne. C'est Lino Ventura. Il imprime la péloche. Donc, c'est un livre qui s'appelle Lino Ventura, le livre coup de poing de Philippe Lombard. C'est paru chez Hugo Image. Donc c'est un livre plutôt rigolo, c'est un peu dans l'ambiance de Sopress ou de Schnock, je ne sais pas si vous connaissez Pierrick, ce genre de presse qui prend la culture un peu par le petit bout de la lorgnette sur des choses assez, assez rigolotes. Donc là, c'est classé par film, en fait. Donc on a des chronologiquement par film. Alors on a par exemple Touchez pas au Grisby de Jacques Becker en 54, où on nous dit que Lino fait la couverture des cahiers du cinéma sous le nom d'Angelo Borini, qui était son pseudo de lutteur sous l'occupation. Donc signé Lino Ventura. Il y a une anecdote à l'époque de Tirer sur le pianiste, où François Truffaut disait « Je n'aime pas Lino Ventura », ou plutôt ses personnages, les gangsters, bon père de famille, le côté « protège mon gosse, envoie des mandats à ma femme ». Ça l'hérissait terriblement François Truffaut, mais c'était un peu ce que recherchait aussi à cette époque Lino Ventura, l'humanité, mais dans les gangsters, quoi. Pour contrebalancer un peu les gangsters. Alors, il y a une question là autour de la table là avec Renato. Là, comment s'appelaient les tontons flingueurs en Italie?
Et alors là, c'est difficile.
Alors, Pierrick, une idée?
Je ne sais pas.
Ils appelaient ça, enfin, ça s'est traduit par la familia si spara. On tire en famille.
Ah ouais.
Alors, une autre anecdote, c'est sur le film Les Aventuriers de Robert Enrico en 67 avec Alain Delon. Donc, justement, on est encore là à la fois dans la transmission et puis les bars. Donc, Alain Delon se souvient. Lino me gavait, il m'entraînait dans les meilleurs bistrots de la région en Charente-Maritime, puisque ça a été tourné à Fort Boyard. Et donc, au bout de 15 jours, Delon en avait marre. Il a dit « Tu m'as fait prendre 3 kilos, tu veux porter atteinte à ma réputation ?» Et Lino lui a répondu « Oui, je te trouve trop beau, je vais te faire bouffer pour que tu grossisses. » Donc voilà, donc plein d'anecdotes qui fourmillent dans ce bouquin sur, évidemment, Lino, Lino éternel, qu'on aime tant et que donc je vous recommande. Je vais vous annoncer un concert du groupe Cantalise qui s'articule autour de Margherita Trefoloni. Ça sera à l'Osteria à Rosny-sous-Bois. Donc là aussi, on est dans une Osteria. C'est un très beau, d'ailleurs, c'est une très belle adresse aussi pour vous, Pierrick, parce que ça s'appelle l'Osteria. C'est un peu comme les osteries italiennes, comme l'auberge ou le bistrot. Ils font beaucoup de choses avec les associations du coin, sur France Alzheimer, avec des tricoteuses. Il y a plein de concerts, donc on y mange, on y boit. Enfin, c'est vraiment un lieu vraiment de socialisation au sens plein du terme. Donc ça, c'est l'Osterie à Rosny-sous-Bois, c'est 17 rue du Général Leclerc. C'est pas très loin, donc dans le 93. Donc ce concert, ça sera le 26 novembre. Donc je vous l'annonce en exclusivité. Concert le 26 novembre. Donc Margherita Trifoloni avec donc son nouveau groupe. Enfin, pour ainsi dire, elle a sorti un disque au mois de mai qui s'appelle Canti d'amore e di passione dell'Italia popolare. Donc là, on est aux racines de l'Italie populaire. Donc la formation s'articule autour de Gabriel Bismuth au violon, Maurizio Minardi à l'accordéon et Barthélémy Seyer à la guitare. Et donc on va écouter un extrait grâce à Corentin tout de suite. C'était un concert qu'ils ont donné il y a un an pour l'association Passerelle au salon d'Hauteville dans le 10e. Voilà, c'est un petit mélange de ce qu'ils font. Le groupe Cantaliso, Margherita Trifoloni.
Thank you.
Cantalizo, Margherita Trefoloni. Donc, je vous rappelle la date, le 26 novembre à l'Osteria, Rosny-sous-Bois, samedi 26 novembre 2022. Je voulais rendre hommage aussi au Miroglio Café qui va malheureusement, dont on va commémorer bientôt les 10 ans de la disparition. Vous vous rappelez ce café, c'était à Beaubourg, rue Saint-Martin, café turinois qui voulait un peu comme l'Osteria d'ailleurs, faire revivre la culture, la convivialité italienne dans un authentique café avec beaucoup de programmation, de chanteurs, de comédiens, de lecture, de poésie, de voilà. Marina Miroglio, voilà, on lui fait un grand coucou. Ça avait commencé en 2019, ça a duré 3 ans, une magnifique aventure d'un bar, café culturel. Pierrick, donc vous en avez, j'imagine, vu pas mal à travers le monde, puisque vous avez fait aussi pas mal de pays.
Et oui, en Italie comme en France, les cafés, les bistrots peuvent être des tremplins magnifiques pour des artistes, à la fois des artistes débutants qui apprennent le contact avec le public, qui apprennent et qui rencontrent des gens qui s'intéressent à eux et puis qui les suivent ensuite, comme la grande Sophie, ce qu'elle avait fait, elle était venue avec sa guitare à Paris.
Ouais.
Et puis c'est aussi des lieux où des artistes plus confirmés peuvent se présenter face à un public plus intime. En tout cas, c'est très intéressant. À la fois pour débuter, c'est plus intéressant que The Voice ou que des émissions comme c'est.
Ben on est confronté au public, au vrai public directement, on va dire.
Exactement, exactement. Et puis c'est pas des émissions éliminatoires comme ces sélections parfois très humiliantes via un jury. C'est vraiment le public. Puis il y a des gens qui aiment ce que vous chantez, puis d'autres qui aiment moins.
Enfin, les concerts, ça peut être aussi dur. Hein.
C'est vrai, c'est vrai. Bah, on n'est pas forcé d'assister. On se réfugie au comptoir.
Mais là, je me rappelle une anecdote que me racontait un de mes collègues hier, justement, où, parce que là, c'était la mort de Jerry Lee Lewis, là, qui vient de décéder là, à l'âge de 87 ans, un grand pianiste de rock'n'roll. Et un jour, justement, dans un bar, je crois que c'était dans le 11e, ils ont appelé avec son groupe pour au déboté, parce que son avion avait du retard, hein, Jerry Lee Lewis, de rameuter un maximum de groupes de Paris et la région dans le genre un peu rock'n'roll. Et du coup, ils ont joué, mais tous les groupes se sont fait huer. Enfin, il y avait des Teddy Boy, des rockers assez durs sur le devant de la scène. Et donc, voilà, c'était assez cocasse comme ambiance. Donc, c'est vrai que ça peut être aussi, pas une forme d'élimination, mais en tout cas, une confrontation avec le public, quoi.
Ah, c'est un bouillon de culture. Il se passe beaucoup de choses, quoi. Les scènes ouvertes, par exemple, on découvre des talents, qu'on apprécie pas toujours. Et puis après, bon, bah, on en trouve de
fabuleux. Oui, voilà, c'est pas le public de fans qui, face à un groupe connu, c'est un public qui vient voir et découvrir.
C'est un peu ça. La création, c'est qu'il se passe quelque chose d'inattendu et voilà.
Alors justement, dans l'inattendu, je pense qu'il va s'en passer, parce qu'il s'en passe toujours, c'est sur l'océan, hein, l'océan Atlantique. Mais avant, on a Renato qui a des places à nous faire gagner, un
oui,
petit concours.
Fait, oui,
on va organiser un petit concours en direct.
Oui, questa sera si esibisce Luciano Ligabue al Bataclan alle ore 19:30. Abbiamo avuto la possibilità di avere 4 biglietti. Ai primi che ci daranno la risposta alla domanda a che ora inizia e a che ora finisce la nostra emissione di Cappuccino la domenica mattina, potranno ascoltare questa sera gratuitamente Luciano Ligabue al Bataclan, che si trova al 50 Boulevard Voltaire, Paris 11e, metro Oberkampf. Il numero di telefono per la risposta è 01 40 24 29 29. Ripeto, 01 40 24 29 29.
01 40 24 29 29. Donc, concert de Ligabou et ce soir même au Bataclan. 4 places à faire gagner. Et puis, donc, vous nous dites. Mais on peut répondre en français ou pas?
Oui, oui, oui. Alors, à quelle heure commence l'émission de Cappuccino le dimanche matin et à quelle heure se termine?
À quelle heure elle commence? À quelle heure se termine? C'est la matinale ou.
La matinale tout entière.
La matinale italienne sur Aligre FM, c'est à quelle heure? Ah, facile. Hein. Pour les fidèles, c'est très facile. Alors, donc justement, on part sur l'océan, sur la voile, la course à la voile, la course au large, donc avec Giancarlo Pedotte et le skipper florentin. Donc là, on vous emmène, Pierrick, j'imagine que vous connaissez bien la Bretagne,
un petit peu, oui.
Le Morbihan, l'Orient,
oui, oui.
Territoire connu. Voilà. Oui. Donc Giancarlo, lui, il est à La Morplage, c'est à côté de l'Orient, c'est la Mecque de la voile au large, donc il s'est installé il y a 12 ans maintenant, je crois, là-bas, pour vivre sa passion de la voile. Il a commencé sur des petits bateaux, les classes 40. D'ailleurs, il a fait 10e de la route du Rhum en 2014, mais donc sur un plus petit bateau. Et ensuite, je vous rappelle son palmarès rapidement. En 2015, il a été premier de la Transat Jacques Vabre en double avec Kerwan Leroux. D'ailleurs, la Transat Jacques Vabre, on la compare souvent à la route du Rhum. La Transat Jacques Vabre, c'était l'ancienne route du café, donc c'était Le Havre. Alors là, maintenant, c'est sur le Brésil, et puis ça va aller en Guadeloupe aussi. Mais la Transat Jacques Vabre, elle est en double, alors que la route du Rhum, elle est en solitaire. Et la route du Rhum, elle est tous les 4 ans, comme le Vendée Globe, alors que la Jacques Vabre, elle est tous les 2 ans, et donc elle est en duo. Donc voilà, 37 skippers sont sur la ligne de départ, donc sur des IMOCA, c'est le bateau phare du Vendée Globe, donc pour faire plutôt le tour du monde, donc un bateau plus ramassé, 18 mètres de longueur, avec une hauteur de mât de 29 mètres. Sinon, il y aura 138 skippers en tout, donc énormément de skippers. Et donc cette année, une route du Rhum sous le signe de la modération, hein, sans jeu de mots, parce qu'il y a eu un large mouvement de skippers qui remettent un peu en cause l'impact environnemental de la logistique et des transports des bateaux qui sont construits aussi avec du carbone issu du pétrole, avec de la fibre de verre. Alors qu'à la base, on se dit, la voile, c'est quand même naturel, on utilise le vent, mais c'est vrai qu'il y a tout un écosystème qui n'est pas favorable à la biodiversité. Donc voilà, les choses, un certain nombre de skippers veulent que les choses changent assez rapidement. Je reviens sur le palmarès de Giancarlo, donc 2015, premier de la Transat Jacques Vabre avec Erwan Leroux en double. En 2021, il a fait donc le Vendée Globe, on vous l'a annoncé, on l'a suivi pendant un certain nombre de mois. Et donc, je rappelle qu'il a terminé 8e donc, du Vendée Globe à seulement 19h du premier. Donc, sur un tour du monde en 3 mois, arrivé seulement 19h du premier, c'est assez incroyable. C'était la première fois où il y avait aussi peu de marge entre le premier et le deuxième. Et même Giancarlo, qui était 8e, était arrivé à moins d'une journée après. En 2022, il a fait 8e de la Guyader Bermude Race et 12e de la Vendée Arctique. Donc ça, c'était des petites mises en jambes pour cette route du Rhum, donc qui va partir le dimanche prochain, dimanche 6 novembre à 13h02 précisément, de Saint-Malo, destination la Guadeloupe. Donc voilà, on suivra Giancarlo pour vous dire un peu le résultat qu'il a fait. Et puis, bon, on parlait aussi un peu de la Bretagne. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu sur la Bretagne? Vous deviez peut-être être en Bretagne, non? Ce week-end, vous avez changé votre emploi du temps pour nous, je crois. Et on vous en remercie, Pierrick.
Oui, je suis assez souvent en Bretagne, en Mayenne, en Sarthe, dans ces endroits que je connais bien, puisque je suis né en Mayenne. Et puis,
terroir bistrotier.
Exactement. Tous ces bistrots de famille, émouvants, ces petits mondes que je retrouve toujours avec plaisir. Puis le plaisir aussi d'en découvrir d'autres, de certains que je ne connais pas.
Vous avez fait un livre sur la mer La Pipe, c'est au Mans.
Exactement, la mer La Pipe et son bistrot extraordinaire. Dans la ville du Mans, qui vient de fermer malheureusement, puisqu'elle est décédée il y a 2 mois.
Elle a disparu.
Et on garde tous un souvenir ému de cette grande dame qui, à 80 ans, continue à tenir son café, presque aveugle, et avec une mémoire extraordinaire de toutes les personnes, avec la voix, elle reconnaissait les gens à la voix. elle avait tout le monde en tête. Elle savait qui était venu avec qui, quand, et même des gens qui étaient venus il y a 10 ans, elle se rappelait. Elle aimait vraiment les gens qu'elle recevait.
Ouais, c'est plus qu'une tenancière de bar là. C'était vraiment
une famille.
Une famille élargie, ouais.
De tous âges, de toutes conditions sociales. Il y avait des gens qui font le ménage. Il y avait le ministre Stéphane Le Foll qui est devenu maire du Mans. Il y avait des tas de personnes qui fréquentaient ce café dans une ambiance très respectueuse, d'écoute, et cette mère Lapine qui imprimait son caractère un peu rugueux mais très chaleureux
dans un grand brassage socio-culturel.
Oui.
Alors vous faites aussi, donc vous êtes on va dire chroniqueur un peu de la vie dans les bars, mais vous faites aussi de la photo puisque vous avez fait une photo, une expo, on va en parler, qui vient de se terminer, et puis donc ce livre Au bonheur des bistrots paru chez La Martinière là il y a ce week-end, hein, c'est ça, hier, je crois que c'est paru hier.
C'est sorti hier, ouais.
Exactement. Donc vous faites aussi de la photo, pas mal de photos.
Absolument.
Donc comment ça s'est venu, cette passion ?
Alors, c'est venu...
C'est venu en même temps que le journalisme ou après ou...
Alors, l'envie de transmettre aussi, je pense, l'envie de montrer un petit peu comment on emmènerait des amis. J'ai des amis, notamment d'Italie, avec qui, quand ils viennent à Paris, je leur faisais une liste d'endroits à visiter, de bars intéressants, avec des concerts, avec des expos, avec des animations.
Je fais ça aussi, moi, pour les amis italiens, ouais, genre une petite liste.
Exactement. Et puis, effectivement, quand ils reviennent, on fait une liste différente. Et à la fin, ces listes, on finit par faire des livres, que ce soit le guide Paris Bar Concert ou le guide Paris Bar Déco,
ouais,
avec des lieux intéressants, avec la décoration, avec l'esthétique, avec des lieux historiques ou des lieux complètement modernes et bizarres et drôles.
Et donc de ces lieux, vous avez commencé par faire des photos pour
exactement
illustrer ces lieux, en tant que guide, quoi.
Exactement, pour un petit peu à titre personnel, pour garder des souvenirs, pour montrer ces lieux que je trouvais émouvants, ces personnes. Et puis, effectivement, on les a réunis dans un livre, Au bonheur des bistrots.
Oui, parce que c'est vraiment un travail de photographe. Hein, c'est pas juste des petites photos comme ça, je peux en témoigner. C'est vraiment, vous avez vraiment une formation, j'imagine. Enfin, vous avez suivi...
Alors non, j'ai pas de formation
en photo. Non, pas de formation en photo, mais...
Je me définis un peu comme un photographe... Amateur, bon, ça fait longtemps que je travaille, j'ai appris.
Grand amateur, alors.
amoureux, photographe amoureux, en fait. À savoir que je photographie ce que j'aime. Il y a des choses que je suis incapable de photographier. Des objets, par exemple, ou
des natures mortes.
La nourriture, c'est extrêmement technique, la nature morte. Photographier de la nourriture pour que ça ait l'air appétissant, que ce soit réjouissant, c'est extrêmement difficile, ça demande des valises de maquillage comme pour maquiller des top modèles, et je ne sais pas faire ça. En revanche, j'aime bien photographier les gens, les lieux, les ambiances, la mer à la pipe avec ces volutes de fumée et cet univers très sombre.
Voilà, des compositions avec toute la déco, les couleurs chamarrées d'un bar et les visages. Voilà,
tout était magnifique dans
c'est vraiment endroit. ce qu'on retient de votre travail. Alors justement, on va parler d'une autre photographe italienne, elle milanaise, même Veronica Mecca, dont on vous a déjà parlé ici. Elle parle de nature, sa nouvelle expo s'appelle « La nature est un temple ». Ça sera les 11, 12, 13 novembre, 18, 19, 20 novembre, à la galerie cabinet des maîtres Rilov-Mercier, c'est 9 rue des Deux-Ponts dans le 4e, à Lille-Saint-Louis. Et alors voilà, en exergue, elle cite une correspondance de Baudelaire, « La nature est un temple où de vivants piliers voilà, laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. » Voilà, première exposition. Une autre exposition, c'est de la peinture. Giorgio Morandi, portrait intime à la galerie Clavier Fine Art, c'est jusqu'au 17 décembre 2022, un peintre bolognais par une galerie, d'ailleurs c'est une expo qui vient de la Galleria d'Arte Maggiore et la Gamme de Bologne, qui présente donc une rétrospective de Giorgio Morandi, artiste majeur du XXe siècle, l'exposition présente une vingtaine de pièces datées de 1913 à 1963. Et la dernière grande exposition de Giorgio Morandi à Paris, c'était au Musée d'Art Moderne, il y a plus de 20 ans. Donc, Galerie Clavier Fine Art, 10 bis rue Roger, c'est dans le 14e. aussi terre de bistrot et de restaurants, de restaurants et de brasseries. Voilà, ça sera du mardi au samedi de 11h à 19h et c'est donc jusqu'au 17 décembre, Giorgio Morandi. On va faire une petite pause musicale pour rester dans le thème. Hein. On va boire un petit coup avec, je vous dis pas qui c'est d'ailleurs, c'est Opéra Verdi, Giuseppe Verdi, La Traviata. Et écoutez peut-être si vous trouvez l'interprétation de Libiamo nel lieti calici. Libiamo nel lieti calici, vous avez trouvé qui c'était? Le Modenais Luciano.
Pavarotti.
Luciano Pavarotti. Il y a un coffre incroyable dans cette version de la Traviata, enfin dans cet extrait de la Traviata, l'air de Brindisi. C'était en 1993 sur la Gran Piazza di Modena avec Nucia Focile, la Sicilienne. Pour la partie de Violetta, évidemment. Je crois que toutes les places ont été gagnées, Renato, pour le concert de Ligabue et au Bataclan ce soir.
Oui.
C'est parti en...
En quelques secondes.
In un soffio.
Voilà. Alors, je voudrais bien,
le temps de le dire et c'est parti.
Voilà, je voudrais bien
préciser
une chose aux personnes qui ont gagné, qu'il faut qu'ils se présentent avec le nom de l'émission Cappuccino de Radio Aligre. Voilà, et ils donnent les noms que j'ai donnés tout à l'heure. Voilà, mais Radio Aligre, émission Cappuccino, c'est primordial.
Voilà, vous venez avec, vous donnez votre nom et surtout vous précisez bien que vous venez de la part de Cappuccino.
Le nom que j'ai donné moi des deux personnes.
Ah oui, d'accord. Le nom que Renato vous a donné est précisé Cappuccino Aligre FM. 42 rue de Montreuil même, vous pouvez donner l'adresse. Alors, une petite BD qui vient de sortir, c'est, ça s'appelle, on en a déjà parlé, c'est Hervé Barulea, Detto Barru, Bella Ciao, le volume 3, c'est une BD vraiment très sympa sur la culture franco-italienne qui est écrite et dessinée vraiment à la première personne. Il prend toute cette histoire de l'immigration à bras le corps et donc il essaie de répondre à cette question brûlante, comme il dit, celle que le prix, quel est le prix que doit payer un étranger pour cesser de l'être et devenir transparent dans la société française. Évidemment, l'étranger, c'est l'italien. Dans ce troisième tome, Théo, le narrateur, poursuit son récit familial. Donc on voit par exemple la mort, qui est un des jeux de main les plus vieux du monde, hein, Renato, tu connais. Voilà, qui se termine des fois en castagne. Et alors, il revisite un peu le mythe, on peut dire, de Lazzaro Ponticelli, qu'on connaît bien, les Garibaldiens. Toi, le Garibaldien, il a été... je ne sais pas s'il n'a pas été arrêté d'ailleurs devant les Garibaldiens, le siège des Garibaldiens à Paris. Lazzaro Ponticelli.
Je ne sais pas ce qui a été arrêté là.
Alors, justement, c'est tout le sel de cette revisite sur le chapitre de Lazzaro Ponticelli, c'est qu'il revisite un peu l'histoire donc de ce héros dont la nation lui a rendu un grand hommage, puisqu'il a été le dernier poilu français. Il est de Bétola, donc comme François Cavanna. Et ce héros français n'a pas eu, c'est ce qu'il raconte et ce que vous pourrez lire dans Bella Ciao, tome 3, il n'a pas eu vraiment la reconnaissance du pays au départ. Hein. Vous allez voir toutes les pérégrinations qu'il a eues, Lazzaro Ponticelli.
Il s'était mis un peu contre l'Italie aussi, hein.
Ouais.
Lui-même. Mais enfin, histoire antérieure. Hein.
Voilà, donc il s'est fait naturaliser en 1939. Et donc voilà, a été le dernier poilu vivant. C'est aux éditions Futuropolis, Bella Ciao, donc c'est de Barou. On va parler de rapidement, mais vous avez fait une exposition Pierrick Bourgault, Bistrot et Café du Monde à la Galerie Montparnasse. Ça s'est achevé la semaine dernière, le 27 octobre. Et donc, alors il y avait aussi, moi j'étais venu vous voir, il y avait justement des musiciens que vous mettiez en avant, dont notamment Gilles Maire, qu'on va écouter tout de suite, qui a fait une chanson sur l'Italie. Et donc dans cette exposition, Bistrot et Café du Monde, et donc il y a pas mal de clichés, de bistrots, de vos voyages. Alors, je me rappelle, il y a Messine de tête, il y a Rimini.
Tout à fait.
Oui, oui. C'est ça, il y en avait encore d'autres.
Le Café Florian à Venise.
Café
aussi,
Florian à Venise.
Ce magnifique café de 1723, je crois.
Ouais.
Et puis, effectivement, à Palerme, donc, un café avec de retraités aussi, des jeunes à Rimini qui sont
une baraque
exactement. Premier rendez-vous d'amoureux de 13 ans sur le port de Rimini avec les bateaux derrière. Donc, c'est des instants que j'aime saisir, quoi, des instants très forts.
Voilà, des instants vraiment suspendus dans la. Donc là, on n'est pas dans le bistrot à l'intérieur, forcément, dans la chaleur de la convivialité. Mais voilà, on est dans des moments de vie avec une composition qui se crée, hein, un peu à la manière d'un douaneau là, qui disait qu'il fallait chercher la composition, chercher différentes choses dans le cadre et même peut-être suggérer ce qu'il y a hors cadre.
C'est des photos qui sont un peu un cadeau de la vie parce que je dirige rien, je laisse venir.
Oui, c'est ça, vous prenez, essayez d'attraper, l'instant. C'est un peu l'attrape-rêve, attraper l'instant pour l'immortaliser.
Voilà, bon, j'observe ce qui se passe et puis j'essaie très vite de le transmettre.
Bon, très bien. C'était une très belle expo. Est-ce qu'on aura l'occasion de la revoir, cette expo, donc sur Bistrot et Café du Monde, ouais, certainement
j'espère
l'avenir.
J'espère continuer à la montrer dans différentes villes.
D'accord, très bien. Alors donc justement, il y avait ce chanteur, Gilles Maire, peut-être que vous allez pouvoir nous en parler un petit peu, comment vous l'avez rencontré, comment vous avez été amené à l'inviter à votre expo.
Alors Gilles Maire, j'ai rencontré dans un café-concert au Magique dans le 14e, qui est fermé malheureusement pour des raisons assez classiques de prix de l'immobilier, de prix du mètre carré, quand le prix du lieu est multiplié par 4, ce sont des entreprises de bureaux, des assurances, des agences immobilières qui le reprennent, mais le petit café qui vivait avec relativement peu de chiffre d'affaires, mais une grande qualité humaine, une grande qualité d'accueil, eh bien, il est forcé de déménager et de laisser la place à l'agence immobilière.
Il est rattrapé par le modèle économique.
Exactement. Le loyer, c'est la principale. Le loyer, la transmission, le fait que les banques prêtent difficilement pour les gens qui veulent créer des cafés. La faible rentabilité du lieu, toutes les taxes, terrasses et autres.
Oui, surtout à Paris.
Et Gilles Maire, eh ben j'ai organisé les lundis chansons du Jazz Café Montparnasse. Et Gilles Maire devait faire un concert le 16 mars 2020. Et ce concert a bien sûr été annulé pour cause de Covid. On a l'affiche.
Ah oui.
On espère le réinviter quand le Jazz Café reprendra.
D'accord, très bien. Donc voilà, Gilles Maire donc, nous interprète. Donc il est français, il a son groupe Les Jetés de l'Encre. Et là, il est venu avec sa guitare et nous interprète une chanson. Il dit, c'est sur son disque qui date de 2011, qui s'appelle d'ailleurs Bologne. Et une chanson sur Bologne. Il n'a jamais mis les pieds à Bologne, mais je pense qu'il a fait cette chanson donc, en hommage au peintre bolognais Leonardo Cremonini, qui est mort à Paris en 2010. Et il a, un peu comme vous, croqué vraiment l'esprit italien de l'Émilie-Romagne. D'une manière, j'étais complètement soufflé. On va l'écouter. La peinture de Leonardo Cremonini, elle a une atmosphère un peu psychanalytique, un peu métaphysique. Et d'ailleurs, j'ai vu que de nombreux penseurs l'ont analysé, comme Umberto Eco, Alberto Moravia, Italo Calvino, Dino Buzzati, Régis Debray, Bernard-Henri Lévy. Enfin, voilà, c'est un peintre qui a beaucoup vécu à Paris et donc qui a croisé la route de Gilles Maire et donc qui a fait cette chanson en hommage au grand peintre Leonardo Cremonini. Je vous propose de l'écouter tout simplement.
T'es belle comme une toile de Cremonini, belle Émilie-Romagne qui croise mes nuits. Au Lambrusco Sorbar, à ce bar de Lombardie, entre un parfum de Parme et un air de Verdi. Renaud, le grand Renaud, revenant de Toscane, t'enlace dans son bras ma belle Romagne. Bologne se balance sur les bords de son lit, Gangaritzin d'Alorgne sur Azzinelli. T'es belle comme un air de Sergio Reggiani, l'enfant de ton pays, Reggio d'Émilie. La voix d'un vieux gamin, charmante jusqu'aux larmes, un parfum de Paris pour un chanteur de Parme. Venise ne sera jamais en italique, jamais ne sombrera dans l'Adriatique. Mais Bologne la rose, la Toulouse italienne, ta Piazza Maggiore se fout des Vénitiennes. T'es belle sous le soleil et puis t'es belle sous la lune. Combien ai-je embrassé sous la statue Neptune, sous les parfums de Parme, sous les seins des sirènes. Bien des filles de charme sont devenues des reines. Thank you. t'es belle comme une toile de Crémonie. T'es belle comme une étoile qui se croit tout permis, qui regarde en riant sur le quai d'une gare un chanteur éperdu pleurant sur sa guitare.
Voilà, Gilles Maire, Bologne. Superbe hommage à Bologne. Je pense qu'il a vraiment contribué à l'histoire de la culture franco-italienne. Vraiment, il faut vraiment le faire connaître et on est là pour ça. Magnifique hommage à Cremonini et donc à Bologne. T'es belle comme un air de Sergio Reggiani, l'enfant de ton pays Reggio d'Emilie, la voix d'un vieux gamin charmante jusqu'aux larmes, un parfum de Paris pour un chanteur de Parme. Et toutes les strophes sont du même acabit. Excellent, excellent Gilles Maire. On écoutera une chanson si on a le temps avant la fin. Alors moi, quelque chose me dit, Pierrick Bourgault, que l'obsolescence programmée, c'est pas trop votre truc, quoi. Le jetable, l'express, les tableaux double entrée, les tableaux Excel. J'imagine que, enfin, c'est l'image que j'en ai, que vous préférez peut-être la patine d'une cocotte en fonte, le culottage d'une poêle, la cire d'un meuble ancien, la douce ambiance d'un bistrot de province. Non, je me trompe?
Et ouais, et puis des livres en papier, parce que le papier, ça dure, et puis on peut le consulter encore 10, 20, 50 ans après, un siècle après, sans avoir besoin de l'entrer dans une machine. Imaginez par exemple, si vous aviez écrit un livre sur Minitel, il y a encore... le Minitel s'est arrêté il y a 10 ans, vous voyez.
Ah ouais.
Et ça a l'air très très loin, ou des disquettes, ou des supports un peu plus anciens qu'on ne sait pas lire, donc c'est une disparition totale. Le livre que vous tournez avec vos doigts, que vous lisez avec vos yeux, eh bien il a cette qualité.
Il a des milliers d'années. Ouais.
Voilà, il a cette qualité d'être directement accessible. Donc c'est vraiment durable, à mon sens.
Bon, ben c'est très bien. Alors, est-ce qu'on peut, on va parler un peu de vin quand même, on est là pour ça.
Avec plaisir.
De vin italien. Alors, on rentre un peu dans le vif du sujet. comment on peut dire? Les vins, la production de vin italien déjà a dépassé, je crois, la production de vin français il y a un an ou deux. Hein, elle devient plus produite, mais la quantité, c'est bien, mais la qualité. Alors, qui est le meilleur français, le vin français ou le vin italien, Pierrick Bourgault? Je vous donne la question,
oui.
Comme ça. Je vous passe la patate chaude.
Voilà, très bien. Merci de cette question très intéressante parce qu'elle permet de... Alors, c'est une question que Matteo Renzi avait sortie à François Hollande en avril 2016. Et François Hollande avait répondu très justement, parce que diplomatiquement, c'est difficile de répondre à cette question. Avait répondu que les vins français étaient mieux valorisés en termes de chiffre d'affaires. Et c'est vrai qu'avec les Bordeaux, les Bourgognes, ouais, et les Champagnes, on a une valorisation supérieure en termes financiers. Les classements internationaux, qui valent ce qu'ils valent, hein, après tout ce sont des classements, les vins français arrivent nettement en premier par rapport aux vins italiens. Alors, ceci dit, c'est une question intéressante parce que la cuisine maternelle, c'est celle que l'on préfère. On a quelque chose, il faut rappeler aussi que ce sont les Grecs qui ont enseigné aux Romains la culture de la vigne et comment faire le vin, et les Romains l'ont enseigné aux Gaulois.
Ouais.
Et les Gaulois, ce sont, on est les élèves en fait des Romains. Donc, les Gaulois se sont confrontés à des difficultés de climat parce qu'effectivement, la vigne ne mûrissait pas forcément en bois. Bourgogne, en Champagne.
Puis on montait vers le nord.
Voilà, donc ces problèmes techniques étaient intéressants à résoudre, avec notamment la définition des territoires en Bourgogne. Ce qu'on peut dire, c'est que ce sont deux pays très différents. En Italie, il y a des vignes dans toutes les régions d'Italie, de la Calabre au Val d'Aoste, au Trentino, au Alto Adige. En France, c'est pas le cas. On fait du vin en Bretagne. Alors, on peut faire du vin intéressant partout. Il faut bien vinifier. Il existe sur les terrils du nord de la France du Charbonnet.
Charbonnet.
C'est du Chardonnay qui pousse
chez les corons, ouais.
Voilà, bon, c'est un peu des curiosités locales. Il y a 12 pieds de vigne et puis les gens vinifient en association, ils s'intéressent beaucoup à ça. Mais on a des régions viticoles en France. On a des grandes régions qui ont été définies notamment par le chemin de fer, hein. Avant
milieu du 19e, quoi.
Voilà, c'est ça. Eh bien, on avait une grande région viticole en France. La plus grande, c'était l'Île-de-France. Parce que les plus grands clients du vin, c'était Paris. Donc,
Maraîchage et viticulture.
Exactement. Donc on a quand même une...
Ce qu'on a perdu. Ce qu'on a beaucoup perdu en
Ile-de-France. Il y a eu un séisme qui a touché l'Italie et la France, c'est le phylloxéra.
Ouais.
Beaucoup de cépages locaux ont disparu. On est passé à des vignes un peu standardisées, greffées sur un pied américain qui résiste au phylloxéra.
Ouais, c'est ça.
Il y a davantage de diversité de cépages en Italie, un petit peu comme une diversité aussi de cuisine, de spécialités locales très appréciées.
Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de différences, puisque par exemple, rien qu'au niveau des cépages, on ne les partage pas trop quoi, avec l'Italie. Le Sangiovese qui donne le Chianti, le Roero Altelang et le Barbera Nebbiolo, au Barbaresco, au Barolo, tout ça. Bon, c'est pas...
Il y a des choses très intéressantes dans la région de Franciacorta. Il y a le Franciacorta qui est un vin fait avec les méthodes du champagne, avec les cépages du champagne, Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier.
Et, c'est vrai que de plus en plus, oui, il y a cette...
C'est une tentative,
c'est ce partage. Ouais.
C'est la même méthode, c'est vraiment du haut de gamme. C'est pas exporté parce que c'est effectivement très cher. C'est la Maserati du champagne. c'est excellent. C'est vraiment quelque chose de très, très italien. Il y a beaucoup de curiosité. Il y a le Sangue di Giuda, c'est du vin rouge, sucré, pétillant. Ça, c'est dans l'Oltrepo Pavese.
Oui, il y a le Moscat aussi, issu du Muscat, qui était très doux.
Moscato
d'Asti, qui est très réputé. Bon, pour les desserts, évidemment. Mais...
Des vins avec peu de degrés. Et puis des vins sucrés, avec un sucre résiduel.
Oui, mais c'est quand même des vins où on peut vraiment s'enivrer. Je peux en témoigner, parce que dans notre enfance, on a commencé vraiment à s'enivrer. Même avec ces vins-là, ces vins doux, si on en boit pas mal, on arrive à s'enivrer. Alors, par exemple, le cidre breton ou normand, j'ai déjà testé des festivals toute la journée à déguster du cidre. C'est pratiquement impossible de s'enivrer, quoi. C'est trop, trop faible en alcool.
Et le climat, par exemple, du côté de Naples, climat chaud qui permet d'avoir des maturités assez rapides. Pour avoir un vin un peu acide, pour faire du vin pétillant, eh bien, dans l'Asprigno d'Aversa, ce sont des vignes qui poussent sur des peupliers jusqu'à une vingtaine de mètres de haut. Il en reste encore quelques-unes.
Alors justement, cet exemple est tiré de votre livre qui s'appelle « Vin insolite ». Chez Jonglaise et qui a été traduit, je ne savais pas, vous me l'avez dit avant de commencer l'émission, « Vin insolite », tout simplement, en Italie.
Tout à fait. Et c'est une.
Et donc là, on voit des récolteurs de vignes, mais à très très haut,
oui,
à 20 mètres de haut, c'est ça ?
Des sortes de paniers qu'ils laissent tomber, des paniers pointus qui se fichent dans le sol. Ça existe encore. C'est une caractéristique locale. C'est un petit peu. Des vignes, alors ce sont des vignes non greffées, c'est un peu des vignes comme dans l'Antiquité en fait. Il y a des vestiges extraordinaires. À Pompéi, on a des vestiges fabuleux de la production viticole. On a même l'emplacement des poteaux. Là, on sait comment les gens travaillaient avec des pergolas pour que les hommes et les animaux soient à l'ombre. Donc on a vraiment une diversité hyper intéressante des vins italiens. Alors que la France a beaucoup plus des familles. Vous voyez, ne serait-ce qu'en France, on a 4 bouteilles de vin, la Bourgogne, la Bordelaise, la Champagne et les vins d'Alsace, que l'on peut reconnaître de l'obscurité totale. Vous êtes dans une cave sans lumière, vous pouvez reconnaître un vin d'Alsace.
Il y a les vins du Midi aussi.
Exactement, oui.
Du Languedoc, etc.
Alors, ils prennent souvent la bouteille bordelaise, parfois la bouteille Bourgogne.
D'accord. Ah oui.
Donc, on a une grande diversité, ce qui rend peut-être la communication sur les vins italiens difficile. C'est ça.
Ces vins insolites, vous parlez peut-être aussi des cinq terres, hein, de ces terroirs qui sont à flanc de falaises sur 1500 mètres. Alors maintenant, il y a des petits chariots à crémaillère, mais à l'époque, ils faisaient ça à dos d'homme.
Oui, oui. Alors, j'en parle pas, mais je pourrais en parler dans la prochaine édition. Non, je parlais du Vino della Pace, fait par une coopérative en mélangeant énormément de cépages. Je parle de la vinification italienne, qui est la vinification orange. En fait, on prend du raisin blanc et on le vinifie comme du raisin rouge, à savoir qu'on laisse les peaux, la peau du raisin blanc, avec donc finalement on obtient un vin qui a un peu une couleur orange. Et cette vinification est de plus en plus pratiquée en France pour certains vins qu'on appelle vins nature, parce que classiquement le vin blanc, c'est du jus de raisin blanc ou noir d'ailleurs fermenté, et le vin rouge, c'est C'est le raisin, les grains de raisin, avec la peau, qui fermente avec la peau, qui donne la couleur.
Mais c'est vrai qu'en Italie, il y a beaucoup de méthodes de vinification qui sont bio, qui sont nature, mais qui ne se disent pas telles quelles, quoi. Qui ont toujours été comme ça, simplement parce que c'est fait des vins de pays, des vins simples, oui. Des vins de soif, etc.
Exactement. Il y a un lien de confiance. Comme on fait du vin partout en Italie, les gens apprécient le vin, même le vin de la maison, le vin fait par le grand-père, le vin fait par les voisins. Donc, il y a moins besoin peut-être, c'est comme ça que je m'explique le fait qu'il y ait moins de vin avec le label agriculture biologique, c'est qu'il y a une relation de confiance avec le vin qui est produit près de chez soi. Donc on n'a pas besoin de l'italien semble-t-il a moins besoin de label puisqu'il est en confiance avec ce territoire très proche.
Alors justement dans les vins produits près de chez soi et dans les vins insolites, j'ai lu un de vos articles sur le passito de Carole Bouquet à Pantelleri. Donc elle dit que lorsque les raisins sont mûrs, on les cueille, on les laisse sécher à même le sol dans les vignes et ils se chargent des odeurs de figuier, de fenouil sauvage qui lui donnent ce nez incomparable. Et donc les vignes, alors c'est un terroir, vous racontez que c'est un terroir très très sec, il est impossible d'irriguer, il faut couvrir les raisins en cas de pluie, donc on est dans les deux extrêmes. Les vignes sont semi-enterrées parce que il y a un sirocco qui est brûlant qui souffle dessus. Donc ça, c'est un terroir incroyable, Pantelleri.
Il n'y a pas d'eau. Donc les vignes, c'est un gobelet, quoi. C'est un petit peu comme dans l'Antiquité. Elles sont protégées par une sorte de petit cratère. Chaque vigne a son petit cratère. Ce qui fait que puisqu'il pleut très rarement.
Mais c'est vrai qu'on est plus près de la Tunisie que de la Sicile.
Fait, c'est plus près de la côte tunisienne que de la Sicile. Donc, en fait, il se passe une chose, c'est que la nuit, avec le différentiel thermique, la rosée se dépose sur les feuilles.
Ouais.
Et les vignes boivent par les feuilles.
Ah, ouais.
Et le raisin est extrêmement concentré.
Oui, tout est bon pour hydrater le...
Extrêmement sec.
Le vin.
C'est un vin très compliqué, le Passito di Pantelleria. Il y a un mélange de vin avec il y a une deuxième fermentation en rajoutant le raisin sec qu'on laisse sécher sur des bâches par terre. C'est très très étonnant. J'ai eu la chance de découvrir cette méthode qui a été classée au patrimoine de l'UNESCO.
Alors est-ce que vous connaissez Elvira Dragosa?
Non,
Connaissez certainement. C'est la mère de Georges Brassens, qui était fan de Tino Rossi, de Vincent Scotto, des opérettes, des airs d'opérettes. Et il y avait sa grand-mère aussi, Maria Augusta, qui venait de Basilicate. Hein. Brassens a toujours dit sa mère venait était napolitaine, mais ça vient de Basilicate, Matera, Potenza, voilà. Et donc il a fait une très belle chanson en 1960 dans l'album Les Funérailles d'Antan qui s'appelle justement Le Bistrot.
Dans un coin pourri du pauvre Paris, sur une place, l'est un vieux bistrot tenu par un gros dégueulasse. Si t'as le bec fin, s'il te faut du vin, première classe, va boire à Passy le nectar d'ici, te dépasse. Mais si t'as le gosier qu'une armure d'acier, matelasse, goûte à ce velours, ce petit bleu lourd de menace. Tu trouveras là la fine fleur de la populace, tous les marmiteux, les calamiteux de la place, qui viennent t'en rendre comme des harengs, voir en face. La belle du bistrot, la femme à ce gros dégueulasse, que je boive à fond l'eau de toutes les fontaines, valasse. Si dès aujourd'hui tu n'es pas séduit par la grâce de cette jolie fée qui d'un bouge a fait un palace, avec ses appâts du haut jusqu'en bas bien en place. Ces trésors exquis qui les embrassent, qui les enlacent, vraiment c'en est trop, tout ça pour ce gros dégueulasse. C'est injuste et fou, mais que voulez-vous qu'on n'y fasse? L'amour se fait vieux, il a plus les yeux bien en face. Si tu fais ta cour, tâche que tes discours ne l'agacent. Sois poli mon gars, pas de geste gara la casse. Car sa main qui claque, punie d'un flic flac, les audaces. Certes il n'est pas né, qui mettra le nez dans sa tasse. Pas né le chanceux, qui dégèlera ce bloc de glace. Qui fera dans le dos les cornes à ce gros dé violace. Dans un coin pourri du pauvre Paris, sur une place, une espèce de fée d'un vieux bouge a fait un palace.
Le bistrot, Georges Brassens. Alors, vous me racontiez que les paroles de cette chanson, c'est vraiment un bistrot du
15e arrondissement. Tout à fait, parce que Brassens était amoureux de la femme du patron.
Ouais.
Et puis, bon, il a écrit cette chanson en hommage à cette femme. Sauf que le patron, c'était Valzac.
Le gros dégueulasse.
Bah oui, c'est ça. Valzac, le boxeur.
Ah,
qui lui
oui.
a fait comprendre qu'il n'avait pas intérêt à trop tourner autour de sa femme. Le bistrot existe toujours. Enfin, c'est en face du parc Georges Brassens.
Oui,
il a fermé
oui.
il n'y a pas longtemps. C'est un restaurant très particulier avec une poignée. Il fallait taper à la porte pour entrer. On vous ouvrait. Le vin était à volonté. Était servi dans des magnums. et puis le rhum aussi était à volonté puisque vous aviez le dessert, le baba au rhum. Il posait la bouteille sur la table. C'était du rhum Negrita. Et il y avait une tête d'hippopotame empaillée qui avait été laissée par des clients qui n'avaient pas payé leur addition mais qui déménageait à un musée d'histoire naturelle. Il y avait aussi plein de photos du boxeur Valzac, l'ancêtre qui avait fondé ça.
Ouais.
Et aussi de Belmondo qui fréquentait assidûment ce lieu.
D'accord, c'est vers les Tontons, non ? Il n'y a pas un bistrot
Tout
qui s'appelle
fait.
Les
c'est
Tontons.
Juste à côté.
C'est juste
c'était
à côté.
Juste à côté parce que ça a fermé. C'était en face du parc Georges Brassens où on a un marché aux livres.
Ah ben comme quoi
C'est complètement une chanson réaliste.
Alors justement, dans le côté réaliste, votre livre « Bonheur des bistrots », qui vient de sortir aux éditions de La Martinière. Alors vous avez vraiment la grande classe d'avoir une préface de François Morel. Alors il dit « Les bistrots sont des chapelles où l'on vous apprend que Dieu est saint amour. Les bistrots sont des gymnases, des salles de sport où l'on privilégie essentiellement la musculature du bras par les levées de coudes. Les bistrots sont des rivières où l'on pratique la descente libre. » Les bistrots sont des places publiques où l'on vient discuter, s'engueuler, batailler, contester, ferrailler. Laissez-moi finir ma phrase, je ne t'ai pas interrompu. Voilà, il y a toute une préface de François Morel sur les bistrots et qui croque le croquignolesque, on va dire, des bars.
François Morel, que je remercie très vivement pour cette préface.
Ah ouais. Alors toutes les infos, parce que c'est vrai que qu'on vous invite, mais vous êtes une somme en vous-même, donc toutes les infos, j'invite vraiment les auditeurs à aller sur votre site monbar.net, M-O-N-B-A-R tout simplement .net, et là vous avez tout, vous avez pas mal d'articles, notamment j'ai vu des articles sur l'Italie, évidemment vous en avez fait énormément sur l'Italie, vous parlez des fromages italiens de brebis, et notamment en Sardaigne, hein, qui compte, je crois, la moitié de la production des fromages du lait de brebis et des fromages de brebis en Italie. À propos des bêtes, là, je voudrais signaler la transhumance qu'il y a dans mon village, et c'est un grand événement en Ligurie. J'ai vu que sur les réseaux, il y a un grand événement en Ligurie. C'est aujourd'hui même, ils sont partis, les vaches sont parties à 7h du matin. Renato, là, je crois qu'ils sont en train de casser la croûte puisqu'il est presque 10h30. Ils cassent la croûte juste à la sortie de mon village et donc ils ont encore 7-8 km à faire. Et donc là, c'est un peu symbolique puisqu'il y a peut-être 80 vaches, quoi. C'est pas un grand cheptel. Mais alors, il y a, je crois, une soixantaine de cars qui viennent surtout de la Ligurie, de Genova, etc. Mmh. Et les gens viennent s'habillent comme à l'époque. Il y a des expositions de vieux outils. Il y a évidemment à manger. Il y a des accordéonistes, des groupes qui viennent jouer comme à l'ancienne. C'est toute une grande fête. C'est aujourd'hui, c'est la transhumance de Torio à Santo Stefano d'Aveto, commune de Gênes Métropole.
Et dis-moi un peu, c'est arrosé ou pas ?
C'est très bien arrosé. Oui. C'est très bien arrosé là-bas, oui, bien sûr. Il y a ce qu'il faut et c'est vrai que c'est, il y a toute une, c'est carrément des retombées économiques qui sont énormes, alors que c'est symbolique, c'est vraiment juste. Alors les vaches sont décorées avec des végétaux, oui, avec des fleurs, etc. Oui. Et c'est surtout voilà un grand poumon économique, cette transhumance, donc deux fois par an pour le bourg de Santo Stefano d'Aveto. Alors Pierrick Bourgo, il nous reste une minute à peu près. Quoi qu'on peut déborder, peut-être, non? Je vais me tourner vers Renato. Non, mais on a fait un peu un tour d'horizon donc des vins, de la table italienne. On n'a pas trop parlé de la table italienne, mais c'est vrai que la cuisine familiale italienne, elle est aussi très importante dans le rapport qu'on a à la boisson, quoi.
Ah, ce que je trouve magnifique, c'est le lien des Italiens à leur territoire que vous venez de raconter avec cette transhumance.
Oui.
Savoir ce que l'on mange, c'est tellement plus enrichissant, tellement plus important que de commander sur une appli un pokéball, un kebab ou une pizza ananas ou une pizza
hawaïenne.
Cette nourriture mondialisée qui est livrée par des scooters polluants avec des emballages et des suremballages. Enfin, ce lien à la nourriture est tellement important en Italie, et je les remercie, les Italiens. L'italien devient d'ailleurs la seconde langue gastronomique. L'anglais, l'italien et le français aussi sont devenus des langues gastronomiques à part entière, si vous voulez. Art de vivre et gastronomie. Il y a énormément de choses qui sont dites en italien pour la gastronomie.
D'ailleurs, vous avez fait un reportage il n'y a pas longtemps dans les langues, qui est un des berceaux gastronomiques de l'Italie, puisque c'est là où a été fondé Slow Food. Italie, le supermarché des petits producteurs, des milliers de petits producteurs italiens aussi vient de là-bas. Et donc dans les langues, il y a vraiment la culture qui est imprégnée dans la société des jeunes aux vieux, enfin qui est vraiment naturellement imprégnée, quoi.
Et ce qui est magnifique, c'est que j'ai rencontré dans les foires au vin des jeunes qui avaient entre 20 et 30 ans. Alors que dans les foires au vin en France, on a plutôt des gens de 50 à 70 ans. C'est très impressionnant de voir à quel point ils s'intéressent au vin. Ils y passent la journée. C'était donc notamment en particulier à Alba, dans le centre-ville d'Alba, entouré de boutiques de mode, de boutiques de basket. Au milieu, il y avait des producteurs locaux de vin qui expliquaient. Et puis, il y avait des milliers de jeunes avec un verre de dégustation à la main, un beau verre en verre, hein, c'était pas un gobelet en plastique,
ouais.
Et qui se renseignaient, qui achetaient, qui discutaient. Ils étaient au milieu, non pas dans les boutiques de mode, mais à goûter les vins de la région.
Eh bien oui, la région est Piémonte et toutes les belles régions d'Italie, puisque chaque région a sa cuisine, son cépage, et comme on parlait de la Sardaigne tout à l'heure, la cuisine romaine, la cuisine ligure, émilienne, évidemment, toute la pasta. Voilà, venez découvrir l'Italie, et puis on vous remercie infiniment d'être venu dans les studios de l'Aligre FM.
Merci
de bon matin, mais vous êtes levé quand même tôt, alors que vous auriez pu rester un peu plus tard. Enfin, j'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres rencontres avec vous. Pierrick Bourgo, donc je rappelle votre ouvrage, Au bonheur des bistrots, et puis vous regardez en librairie la quantité d'ouvrages, combien vous avez fait de livres, c'est impressionnant.
Une cinquantaine
d'ouvrages. Merci beaucoup Pierrick Bourgo, très
merci
bon dimanche à vous.